France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, patrimoine, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Mais avec moi aujourd'hui, nous serons 2 pour satisfaire cette émission. Ce sera Isabelle. Isabelle, bonjour.
Bonjour Bénédicte.
Massette, Maillet, Gouge, Bouchard, est-ce que vous connaissez ? C'est l'univers des tailleurs de pierre. Aujourd'hui, focus sur Jean-Louis Boitel au château d'Oudon. Et pour en savoir plus, Dominique a invité 2 représentants de l'association Oudon Culture, Art et Patrimoine, Sigrid Schneller et Pierre Bocquien.
Autre sujet, un livre à déguster sans modération. Mathilde Mailleux, libraire parisienne et responsable du secteur religieux de la procure, nous livre son coup de cœur, Les yeux de Mona de Thomas Schlesser.
Et enfin, au cœur d'Angers, un musée foisonnant, c'est le musée du génie à découvrir absolument, avec à l'affiche une nouvelle exposition, l'Odyssée des mines, qui démarre ce mercredi, et ça, c'est tout de suite. Et c'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Le génie, ça vous parle ? Non pas celui d'Aladin, mais celui de ces hommes, à la fois soldats et ingénieurs, qui défendent les frontières, construisent des villes, tracent des routes, sauvent des vies. Le génie militaire, Isabelle, alors c'est quoi exactement ?
Alors, il faut remonter à quelques années tout de même. 1776, date de la création de cette arme de l'armée de terre qui appuie l'infanterie et la cavalerie.
Alors, sa devise est très très parlante aussi.
En effet, parfois détruire, souvent construire, toujours servir. Cette devise garantit au génie une certaine liberté d'action face aux obstacles et aux engins explosifs. En fait, la mission du génie, c'est aménager le terrain.
Et justement, comment est-ce qu'on appelle ces soldats ?
Eh bien, ce sont les sapeurs, par référence à leur première mission historique, la sape, qui consistait à creuser des tranchées ou fosses sous une construction pour la faire écrouler.
Il y a aussi une actualité brûlante au musée, aujourd'hui même, Isabelle.
Eh oui, c'est une exposition intitulée « L'Odyssée des mines ». Le titre évoque d'emblée une longue histoire, un voyage à travers le temps, quand on sait à quel point il existe une multitude de mines différentes sur les champs de bataille contemporains.
Alors avec cette exposition, le musée du génie revient sur la terminologie militaire du mot « mine », qui revêt pour le sapeur différentes significations selon le contexte et puis l'époque. Comment se présente exactement cette exposition ?
Alors on peut dire avec 3 définitions, parce qu'une mine, ça peut être une galerie, un explosif, ou peut-être vous n'y avez pas pensé Bénédicte, un crayon. On commence peut-être par les galeries, avec un plongeon dans la guerre souterraine, une exposition qui rappelle les conditions extrêmes de construction de ces réseaux souterrains. On suit l'évolution d'une mine, mais je ne vous en dis pas plus pour vous obliger à vous pencher physiquement dans la galerie et à mesurer toute l'ampleur de la guerre des mines.
On parle aussi beaucoup des mines antipersonnelles, mais en fait, ça existe depuis quand exactement ?
Eh bien, depuis le début du XXe siècle, cette torpille terrestre n'a cessé de se modifier à travers l'histoire. Elle descend d'autres engins plus terribles encore, comme le fameux chausse-trap médiéval. Vous connaissez Bénédicte ?
Oui, exactement ça. Je suis sûre que les joueurs de jeux vidéo Assassin's Creed connaissent par cœur. Je ne sais même plus comment ça s'appelle dans le jeu vidéo, mais...
Ben oui, en fait, c'est une sorte d'étoile aux lames tranchantes qui est ancêtre de la mine antipersonnelle et elle servait à bloquer les assauts des cavaliers.
Alors, qui dit mine dit déminage ?
Oui. Il faut savoir que l'école du génie, c'est le lieu d'apprentissage du déminage opérationnel. Unique en France. Et dans l'exposition, il y a par exemple une impressionnante tenue de protection. Elle pèse 38 kilos en tout, dont 10 kilos pour le casque. C'est une grosse tenue pour un travail de l'ombre. Et selon un démineur que nous avons rencontré, le pays le plus pollué au monde en termes de mines, c'était le Cambodge en 1980.
Et donc aujourd'hui, c'est l'Ukraine.
Et oui, et il faut compter au moins 30 ans pour procéder au déminage, 33 ans pour le Cambodge, de 1992 à 2025.
Alors Isabelle, est-ce que vous avez une anecdote un peu plus légère pour terminer ?
Et oui, puisque chacun a déjà écrit avec un crayon de mine à papier, le saviez-vous ? Son inventeur est un ingénieur du génie, Comté. Donc vous l'avez bien compris, derrière une mine peut toujours s'en cacher une autre.
Un musée tellement riche d'ailleurs qu'il fera l'objet d'une émission complète et spéciale à la rentrée, une émission France Culture évidemment, mais dès aujourd'hui, allez voir l'Odyssée des mines au musée du génie, c'est rue Éblé à Angers. Et puis tout de suite, on écoute Françoise Hardy, mon amie La Rose, mais surtout restez sur notre antenne pour la suite de notre programme avec Jean-Louis Boitel, le tailleur de pierre.
Et mon amie La Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses et mon ami La Rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie La Rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie, moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon amie La Rose qui l'a dit hier matin.
Physiquement, Jean-Louis Boitel ressemblait à Auguste Rodin, sculpteur comme lui et tailleur de pierre. Alors il est à l'affiche de l'exposition « L'artisanat et l'ingéniosité du bâti médiéval ». Décédé en 2020, le château d'Oudon lui rend hommage. Dominique a été conquis par l'exposition.
Que vous circuliez à vélo, en bateau ou en train le long de la Loire, entre Angers et Nantes, votre regard sera certainement attiré par la silhouette du donjon du château d'Oudon. C'est juste après Ancenis, une haute tour octogonale dominée par son chemin de ronde avec crénelage et mâchicoulis. C'est une forteresse médiévale construite en pierre de schiste avec des chaînes d'angle et des bandeaux en calcaire clair. Le donjon est complété par une enceinte avec deux tours encadrant le pont-levis. Et à l'intérieur, on découvre deux immenses pièces par niveau et une distribution très sophistiquée avec garde-robe, couloir dérobé et un escalier secondaire pour des circulations privatives. Tout au long de cet été, l'intérêt de la visite de ce monument est complété par une exposition proposée par l'association Oudon Culture, Art et Patrimoine. Elle est représentée aujourd'hui à Radio Campus par Sigrid Schneller, bonjour.
Bonjour.
Et par Pierre Bouquin, bonjour.
Bonjour.
Vous proposez d'explorer l'artisanat et l'ingéniosité du bâti médiéval au travers de la vie professionnelle de M. Jean-Louis Boitel. Il était tailleur de pierre et sculpteur nantais. Il a participé notamment entre 1980 et 2015 à une centaine de chantiers de restauration, dont celui de la cathédrale de Nantes après l'incendie. Alors, ce Jean-Louis Boistel, pour moi, c'est physiquement la copie d'Auguste Rodin. Mais est-ce que vous pourriez nous raconter un peu sa vie, ses origines et son parcours professionnel ?
Alors, Jean-Louis Boistel est né au Maroc, mais a vécu son enfance à Bourges. Comme vous savez, Bourges est une ville où il existe un quartier médiéval parfaitement conservé, et il est vraisemblable qu'il a été très influencé par cet environnement, puisqu'il a commencé dès l'âge de 15 ou 16 ans à réaliser des maquettes reproduisant ces maisons médiévales, plus exactement en s'inspirant de ces maisons médiévales, puisque ce sont des maquettes dont les plans sont totalement sortis de sa propre imagination.
D'accord, ouais, c'est une création architecturale.
Exactement, mais qui s'appuie sur la réalité de l'architecture.
Et sur des exemples qu'il a dû trouver dans les maisons de Bourges.
Voilà.
Très bien. Et ensuite, donc, après cette adolescence, comment a-t-il intégré la vie professionnelle ?
Alors, il a été aux Beaux-Arts, à Bourges et à Nantes, et il a ensuite suivi des études, je dirais, professionnelles pour la taille de pierre. En même temps, il se cultivait lui-même. Là, je ne sais pas exactement en détail s'il a suivi des études pour ça, mais en tout cas, il est devenu un médiévaliste spécialisé dans l'architecture et la restauration. Il a donc passé des brevets, des diplômes techniques de restauration, de taille de pierre et je trouve plus le mot.
Est-ce que c'est davantage issu des compagnons du devoir du Tour de France, ou est-ce que c'est une formation plutôt technique qu'il a
Alors,
qu'il
je
a
pense que les deux, puisque en même temps qu'il faisait ses études, vous savez que la cathédrale de Nantes, malheureusement, a subi un premier incendie en 1972, et qu'à l'époque, il avait donc 18 ans, et que c'est là qu'il a fait ses premières réalisations en tant que restaurateur du patrimoine, sculpteur.
Donc il a été porté par l'incendie, il a été recueilli par les entreprises qui ont été appelées au secours pour participer à la restauration de la cathédrale.
Voilà. Ouais. Il a travaillé dans ce contexte, et je pense qu'il s'est perfectionné également sur le terrain en participant à la restauration de la cathédrale de Nantes.
Alors, il est devenu ensuite entrepreneur à part entière, après, j'imagine, l'ensemble des travaux de restauration de la cathédrale. Entrepreneur, mais il est aussi artiste. On connaît de lui un certain nombre de sculptures, soit en reproduction d'ouvrages anciens à réintégrer dans un monument historique, soit des créations. Alors, c'est pas de l'art contemporain, mais ce sont des sculptures d'inspiration médiévale, mais qui vont être réintégrées dans du patrimoine.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un exemple typique qui d'ailleurs se trouve dans notre exposition au château d'Oudon, qui est une statue qui s'appelle la Liseuse, qui est une statue en calcaire qu'il a réalisée d'après un modèle en terre cuite qui était chez un particulier qui lui avait demandé d'intervenir pour restaurer cette sculpture en terre cuite, dont je crois un bras était cassé, peut-être que la tête était cassée également. Et il s'est intéressé à cette sculpture et il a découvert que cet original en terre cuite, donc en mauvais état, était signé d'un ancien élève de Rodin. Donc ça l'a un peu piqué au vif et il a reproduit cette sculpture en calcaire de la pierre de Tervoux, qui est une pierre du Poitou, un calcaire relativement tendre, mais beaucoup moins tendre que le tuffeau, par exemple, dans laquelle il a réalisé la plupart de ses sculptures.
Bon, vous citez à nouveau Rodin, ça m'amuse parce que vraiment, quand on voit les photos de Jean-Louis Boistel à la fin de sa vie, il a la barbe, il a l'allure, il a le physique de Rodin tel qu'on peut le découvrir à Paris,
tout à fait,
au musée de la Reine.
Et il a, pour revenir sur ses sculptures, il a en particulier réalisé une sculpture qui malheureusement n'a pas pu être transportée jusqu'au troisième étage de la tour d'Oudon. C'eût été un peu compliqué en matière pour ce qui est de la logistique. C'est une sculpture, je dirais, à la façon des sculptures médiévales et qui représente son épouse.
Ah oui. Alors, il a été aussi maître d'œuvre d'un grand nombre de chantiers de restauration pour la ville de Nantes, des maisons particulières, des hôtels particuliers, des églises, des monuments peut-être aussi.
Oui, alors à Nantes, mais pas seulement dans la région, en Loire-Atlantique, au château de Blain, au château de Ranrouette. Il a également travaillé sur le site des Folicifets, qui se trouve à 5 km en aval de Oudon, qui est un site qui a été créé dans les années 1810-1820 par un Nantais qui s'appelait Monsieur Siffet. C'était une folie, c'est-à-dire c'était une construction architecturale qui, a priori, ne servait pas à grand-chose.
Oui,
voilà.
Oui.
Et donc Jean-Louis Boistel a participé, il y a déjà un certain nombre d'années, à la consolidation et à la restauration de ce site.
Et enfin, dernier aspect de sa vie professionnelle, il a été formateur, c'est-à-dire qu'il a conduit un certain nombre d'élèves dans des formations pour devenir tailleur de pierre, sculpteur, en tout cas compagnon à la restauration des monuments.
Oui, il a donné des cours dans le cadre des Compagnons du Devoir sur la restauration en architecture médiévale. Il a également participé à des préparations au CAP et au brevet de tailleur de pierre. Il a donné des conseils à des cabinets d'architecture et puis accueilli des stagiaires chez lui, formé des apprentis, etc.
Alors, vous avez, Sigrid, réuni à l'intérieur du château d'Oudon à la fois des sculptures, des calepins de chantier, enfin tout un matériel issu de la vie, qui montre bien la vie professionnelle de Jean-Louis Boistel. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors il y a donc ces fameuses petites maquettes qui sont quand même au 1/25e, qui sont quand même assez extraordinaires parce qu'on peut y voir à travers les fenêtres des tas d'objets qu'il a lui-même fabriqués. Et il y a donc ces deux parties très imposantes. Et puis il y a également donc des reproductions de plans. Il a repris effectivement toutes les mesures qu'il fallait pour restituer des sculptures, des promontoires, des
Donc ça, des ce façades. Sont les calepins d'appareils, c'est ça. C'est-à-dire ces dessins, tirés de la main du sculpteur, oui, ou du tailleur de pierre qui vont préparer le travail de la
c'est
taille.
C'est ça, il y a tout le travail préparatoire et d'après ses fils, avant qu'il ne commence toute œuvre, enfin tout travail, il se mettait au courant par tout un travail de documentation. Il allait beaucoup en bibliothèque, il fouinait énormément pour avoir énormément d'informations sur le travail qui avait été fait à l'époque.
Il travaillait comme un archéologue.
Complètement, et ça lui plaisait beaucoup.
Et vous présentez aussi ses outils de travail,
oui,
c'est-à-dire ses burins, ses ciseaux,
oui,
ses équerres,
on a essayé,
ses compas.
Voilà, de reconstituer un peu son atelier, l'ambiance de l'atelier avec les tables, tous les outils qu'il utilisait. Enfin, une bonne partie, parce que pratiquement tous ne sont pas là, mais une bonne partie quand même.
Alors, comme on l'a déjà dit, au-delà de cette activité d'entrepreneur, il avait une réelle passion pour les maquettes. C'est une passion qui lui est née très tôt. Alors, il y a une particularité pour ces maquettes, c'est qu'elles sont, elles représentent des maisons telles qu'il les a restituées mentalement. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est qu'elles ont été restituées avec les matériaux d'origine de ces maisons.
Mmh.
C'est-à-dire qu'on utilise la pierre, qu'on utilise le bois de charpente, qu'on utilise la serrurerie, qu'on utilise le vitrail. Est-ce que c'est bien tout cela ?
Alors oui, il a poussé le réalisme jusqu'à tailler lui-même des petites pierres qui font quoi, à peine un centimètre de largeur, de longueur, et il les a maçonnées, il a monté un appareillage de murs avec ces petites pierres qu'il avait taillées lui-même. Les cours sont pavées également avec des pavés à l'échelle, et puis certaines autres maisons, maquettes, reproductions, sont en colombage avec du torchis qu'il a fabriqué lui-même, mélange de terre, de paille, et le tout est d'un très très grand réalisme, au point que il faut vraiment se pencher pour apercevoir, par exemple, à l'angle d'une maison, un petit mascaron. Vous voyez ce que c'est que le mascaron, c'est ces petits visages grimaçants que l'on trouvait dans l'architecture médiévale, notamment dans des clés de voûte ou à des angles, etc. Et donc, il a pousser le réalisme jusqu'à sculpter des macarons minuscules qui font à peine un centimètre de hauteur, où on voit avec une loupe un visage grimaçant qui tire la langue. Et puis aux angles des chéneaux des toitures, on aperçoit également des gargouilles qui ont été sculptées de sa main. On se demande comment il a dû travailler avec une loupe énorme.
Alors ce sont des maquettes qui font 1 mètre 50 à peu près.
Un petit peu moins, environ 80 cm de hauteur.
Oui. Enfin, ce ne sont pas des petites choses qu'on regarde forcément de très près. Ce sont des maquettes qui sont suffisamment grandes pour les observer avec un certain recul.
Absolument. On peut les observer dans leur... Enfin, il y a deux plateaux différents avec des maisons différentes. On peut les observer dans leur ensemble, mais on peut également se pencher pour apercevoir les détails de la construction et de la décoration.
Alors, vous avez aussi réussi à réinstaller l'atelier de travail de Jean-Louis Bastel tel qu'il a existé à la fin de sa vie.
Alors, je ne sais pas exactement si c'est conforme à son atelier, mais il y a quand même toutes les tables et tous les outils principaux qu'il utilisait pour la taille de la pierre.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de poussière, comme dans les tailles de pierre?
Oui, et il y tient.
Il y a beaucoup de poussière qui va avec.
Parfait. Il y tient, oui.
Donc là aussi, on peut observer tous ces outils et la manière dont un tailleur de pierre conduit son travail de restauration.
Oui, il y a effectivement en plus quelques explications, quelques petits paragraphes qui expliquent comment il utilisait ces matériaux.
Et donc, vous avez aussi, vous présentez des vidéos, je crois,
oui.
Sur Jean-Louis Bastel,
voilà.
des films qui ont été tournés en sa présence.
C'est ça.
Et qui expliquent parfaitement son travail.
Oui, c'est lui qui se présente et qui... Alors, il est dans son atelier, le vrai, et il présente justement son environnement de travail. Il présente le travail qu'il est en train d'accomplir sur justement une liseuse et puis sur une autre statue, celle que l'on n'a pas pu d'ailleurs amener au château parce que trop imposante.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Elles nous ont vraiment donné envie de faire cette visite au château d'Oudon. On est juste en face du département de Maine-et-Loire. On est effectivement un pas dans le département de la Loire-Atlantique. Les visites du château, il est ouvert tous les jours l'après-midi en semaine et toute la journée en week-end et pendant les mois de juillet et août. Je vous invite à vous y rendre. Merci encore à Sigrid Schneller et à Pierre Bocquin d'être venus jusqu'ici aujourd'hui. Merci beaucoup.
Ben merci de nous avoir reçus.
Franche culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Et maintenant, place à la littérature avec Mathilde Mailleux, libraire à la Procure à Paris, qui nous livre son coup de cœur pour Les yeux de Mona.
Les yeux de Mona, de Thomas Schlesser, qui vient de paraître chez Albin Michel, est un premier roman absolument étonnant et très ambitieux. Alors, en deux mots, Les yeux de Mona, le propos, c'est tout simple. Mona est une petite fille dont on craint qu'elle va perdre la vie. Elle a 8-9 ans et il lui arrive un petit accident qui fait craindre qu'elle ne perde irrémédiablement la vue. Alors, son grand-père, qui s'appelle Henri, mais qu'elle appelle très affectueusement Dadé, décide, lui, de ne pas se résigner, se révolte contre l'injustice que peut subir sa petite-fille et décide, tous les mercredis, au lieu d'aller chez la pédopsychiatre, l'emmène au Louvre pour regarder une œuvre, une seule. Et puis, plus tard, il l'emmènera à Orsay ou à Beaubourg. L'idée de ce grand-père terriblement affecté, c'est que sa petite-fille puisse enrichir sa mémoire, sa vision intérieure par de la beauté. Et c'est un propos qui est vraiment très innovant. Alors moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce livre, c'est que c'est un jeune auteur qui est un historien de l'art réputé, qui est professeur à l'École Polytechnique, qui connaît extrêmement bien son sujet et qui nous emmène en fait, comme le fait le grand-père Dadé, voir une œuvre, une seule. Alors ce livre a ceci d'original aussi, c'est que la jaquette du livre propose les plus de 50 œuvres qui vont être déployées et décrites dans ce livre à travers donc une cinquantaine de chapitres. 50 chapitres pour 50 visites tous les mercredis au Louvre, à Orsay ou à Beaubourg. Et Dadé demande à Mona de se placer devant l'œuvre et de s'absorber silencieusement de longues minutes devant l'œuvre. Et ensuite s'ensuit à chaque fois un dialogue entre la réception qu'a pu en faire Mona et son grand-père, qui lui, derrière, va lui apporter tous les compléments d'information, va lui expliquer l'œuvre, l'auteur, le peintre, la plupart du temps. Et c'est un véritable cours d'histoire de l'art à laquelle nous assistons. Et puis aussi, c'est une formidable entrée en matière dans justement l'intelligence des œuvres, ces œuvres que nous connaissons tous pour la plupart, mais qui finalement restent très obscures pour le commun des mortels quand on ne s'intéresse pas plus que cela à l'histoire de l'art, à l'histoire d'un courant de peinture, que nous soit français, italien, allemand, quelle que soit l'époque, la Renaissance, le Second Empire, enfin, tout cela est déployé avec énormément d'astuces, mais aussi, c'est même pas que de l'astuce, c'est vraiment beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir-faire aussi. Il y a un dialogue qui est très riche, c'est vraiment, ça n'est pas qu'un cours d'histoire de l'art, ce livre n'est pas que le propos de faire un cours, mais aussi de raconter la vie d'une petite fille et surtout de voir aussi la richesse que peuvent avoir les enfants à la réception d'une œuvre. C'est un livre où tout est convoqué, c'est-à-dire l'histoire même de ce roman, parce que derrière il y a là une trame avec l'histoire et un peu le suspense de savoir si Mona va perdre ou pas ses yeux, qu'est-ce qui se modifie aussi en Mona au fur et à mesure de ces mercredis, elle qui a bien conscience qu'il se passe quelque chose avec ses yeux, mais qui finalement grandit aussi en maturité avec ce grand-père qui l'emmène tous les mercredis voir, contempler, et avec cette contemplation, eh bien, s'ouvre en elle énormément de choses. Elle prend du recul sur la vie, elle prend du recul, et finalement, la beauté, est la ligne, en fait, le fil rouge de ce roman. C'est vraiment un livre très, très étonnant, qui peut se lire d'une traite, mais aussi que moi je peux conseiller de lire chapitre par chapitre et à méditer aussi. Ça donne aussi envie de rentrer dans plus loin, d'aller voir d'autres tableaux d'un certain peintre, de comprendre un petit peu mieux à travers ce petit cours d'histoire de l'art du grand-père, de comprendre un petit peu mieux à travers l'œuvre intégrale ou complète d'un artiste, que ce soit Holbein, que ce soit Watteau, que ce soit d'autres encore, il y en a tant qui sont déployés dans ce roman, et bien d'aller voir un petit peu plus loin. C'est vraiment un livre que je recommande parce que il change, parce que en fait il nous déplace. C'est vraiment un très beau livre.
En quoi, Mathilde, c'est un roman hors norme?
Alors hors norme parce que ce livre, tout d'abord, est une sortie mondiale, ce qui pour un roman français est assez exceptionnel. Albin Michel, qui est l'éditeur, en fait a su proposer un ouvrage qui d'emblée a séduit d'autres maisons d'édition de par le monde. Donc c'est une sortie mondiale. Le livre vient de paraître et dans d'autres pays du monde, aux États-Unis notamment, ce livre paraît de la même façon en même temps. C'est très très exceptionnel et c'est assez audacieux de la part d'un éditeur français de miser sur un premier roman. Je crois que l'éditeur, et si les éditions de par le monde ont été séduites par le projet et par le livre, l'œuvre, ça n'est plus qu'un projet, c'est une œuvre aussi, c'est que ce livre parle de la beauté. qu'est-ce que la beauté nous dit dans nos vies? À quoi elle nous invite? Quand nous allons visiter une exposition, quand nous allons visiter un musée, nous sommes tous spectateurs. Mais est-ce que nous nous rendons vraiment suffisamment compte que quand on contemple ces beautés, eh bien justement, elles nous délivrent plus que un sujet, un message, une époque. Elles nous délivrent l'intelligence qui se met en œuvre face justement à ces peintures, à ces sculptures, à toutes sortes d'œuvres finalement qui nous parlent. Et bien de nous-mêmes aussi, de cette aspiration hautement humaine qui peut délivrer et bien justement la perfection, la beauté du geste. Ça nous déplace. C'est un roman qui justement, je pense, interpelle beaucoup et a beaucoup interpellé les maisons d'édition mondiales, parce que justement le sujet est très audacieux, mais qu'il nous invite à nous déplacer. Ce livre est assez étonnant parce qu'il nous justement, il nous permet de faire pause. À chaque chapitre, nous avons envie d'aller plus loin, de contempler le tableau, de nous aussi nous mettre derrière Mona, à côté de ce Dadé qui nous fait un petit cours d'histoire de l'art. Contempler la beauté à travers ces tableaux, c'est une chance unique, hors norme, et qui nous, peut-être si nous en avions plus conscience, nous permettrait peut-être justement de lâcher dans un monde où on a vraiment besoin de beauté. Je pense que ce livre répond vraiment à cette urgence qui n'est pas forcément si consciente que cela, mais qui finalement se manifeste dans la société, dans nos sociétés. C'est ce besoin justement d'être rejoint par quelque chose qui apaise, qui console, qui élève l'âme aussi. C'est pour ça que Les yeux de Mona, je pense, répond à ces sujets-là d'inquiétude ou d'aspiration profonde.
C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci Isabelle, Dominique, Mathilde, et puis merci aussi à Étienne pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h, ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.